Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une aventure culturelle, commerciale, artistique, à certains égards aussi politique. L'aventure du wax, ce tissu aux imprimés multicolores indéfectiblement lié à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale. Le wax, vecteur de messages personnels, marqueur d'événements historiques. Comment est-il né? Comment s'est-il répandu sur le continent africain? Comment imiter mais jamais égaler est-il entré dans l'univers de la mode en Europe? Comment enfin les artistes, photographes, plasticiens se sont emparés du wax. Bref, vous l'avez compris, on parle du wax sous toutes ses coutures aujourd'hui, à l'occasion de l'exposition qui vient d'ouvrir ses portes au Musée de l'Homme à Paris, dans le cadre du parcours Migration. Soyez les bienvenus sur le Pont des Arts. Bienvenue à nos trois invités. Plateau 100% féminin aujourd'hui. Bonjour Justine Sau.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes journaliste à la télévision belge. Vous êtes aussi scénariste et dessinatrice. Wax Paradox, c'est l'album que vous publiez dans le cadre de cette exposition chez Bayard Graphique. Vous y racontez comment une jeune femme, qui vous ressemble beaucoup, hein, qui vit à Bruxelles, se reconnecte à travers ses études en design textile, au wax et à ses origines africaines. Vous nous en parlerez. À vos côtés, Marie Merlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes muséographe, commissaire de cette exposition. Et Cindy Olohou, bonjour à vous également.
Bonjour.
Vous êtes l'une des commissaires scientifiques de l'expo Wax. Merci à toutes les trois d'être là. En fin d'émission, on vous entraînera en musique à Nairobi, Ali Bilali de la rédaction Kiswahili d'RFI, à repérer pour nous les hits de la semaine en Afrique de l'Est, à commencer par ceci. Nita Fanyadji, qui signifie « Que dois-je faire ?» Nouvel opus de Diamond Platnum, sorti il y a trois jours, du rythme purement tanzanien, nous dira Ali.
RFI sur le pont des arts.
Sur le pont des arts, on s'intéresse aujourd'hui au wax. Marie Merlin, une histoire qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne débute pas sur le continent africain, mais en Asie.
Oui, c'est ce que l'exposition effectivement va souligner et emmener le visiteur à la découverte d'une odyssée textile, donc en complément effectivement de l'exposition Migration, une odyssée humaine. On va apprendre la richesse et la complexité de ce textile qu'on pense connaître, hein, parce qu'il est très identifiable, vous l'avez dit, par ses couleurs, ses motifs. Voilà, et en même temps, on pense qu'il est africain, il est effectivement très souvent identifié au continent africain, mais il n'en est pas natif.
C'est la technique du batik indonésien qui consiste à appliquer de la cire sur le tissu pour délimiter des motifs. C'est cette technique-là qui a donné par la suite le wax.
Absolument. Le wax, en fait, a une ascendance indonésienne. Il est un produit, en fait, manufacturé par les puissances européennes dans la seconde moitié du 19e siècle qui ont industrialisé cette technique de réserve à la cire, donc indonésienne, javanaise, et qui, voilà, ont comme ça réussi à produire de manière industrielle ces textiles et ces motifs.
Alors, on voit au tout début de l'exposition, dans une vitrine, une espèce de stylet qui était utilisé pour enduire le tissu de cire, ça c'était la technique, j'allais dire, ancestrale. Les Hollandais ont voulu mécaniser cela sans y parvenir totalement, c'est ça ?
Ils ont réussi à le faire d'une certaine manière, parce que sans cette industrialisation et cette technique, on n'aurait pas de wax, en fait. Le wax, effectivement, vient aussi de wax signifie cire. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est, en fait, en industrialisant cette technique, ils ont réussi à produire aussi en quantité, dans des quantités industrielles, des batiks industriels qui, lorsqu'ils étaient produits par les Javanais d'une manière artisanale, en termes de nombre aussi, aussi et de volume de textiles, c'était complètement différent.
Ouais, quand je disais que ça ne marchait pas, en fait, c'est que ça ne marchera pas en Indonésie avec voilà. le batik industriel, voilà. mais que la technique, elle, en revanche, va s'exporter, Cindy Olohou.
Oui, justement, en tentant de vendre ces batiks produits industriellement grâce notamment au procédé de la javanaise inventée par le Belge Prévinner.
La javanaise, c'est une machine.
C'est une machine industrielle. Qui permet ouais. l'industrialisation de la production du wax notamment. Et en exportant ces batiks produits industriellement sur l'île de Java, c'est un flop. On peut le dire complet. Et en revanche, sur l'île de Java, à ce moment-là, il y a des militaires ghanéens qui sont déployés sous autorité néerlandaise. Et ils vont participer notamment à l'exportation.
À la diffusion, c'est-à-dire qu'ils rapportent les tissus chez eux et que chez eux, ils ont du succès alors qu'ils n'en avaient pas
sur
place.
En partie, oui. D'accord. En partie, et ça va aussi réorienter les exportations hollandaises vers l'Afrique de l'Ouest.
Donc les débuts du wax restent très attachés à cette histoire coloniale, on peut le dire.
Oui, c'est un tissu qui est né dans un contexte colonial.
Et on verra tout à l'heure que le regard sur le wax aujourd'hui peut être marqué par cette histoire, hein, ce tissu qui n'est pas issu du continent africain, mais qui est vraiment attaché à l'Afrique. La production de wax jusqu'au milieu du XXe siècle, elle est uniquement européenne ?
Quasiment, oui. Beaucoup, il y a eu des unités de production en Suisse, jusque dans les années 70, également aussi en Angleterre, qui ont beaucoup évolué. Et petit à petit, le nombre d'entreprises produisant du wax en Europe s'est réduit, jusqu'à arriver à deux entreprises majoritaires, que sont Vlisco, qui produit toujours du wax en Hollande, à Helmond, dans leurs usines historiques, mais aussi l'usine ABC, qui a exporté énormément de wax, surtout pour les zones anglophones. Et au moment des années 50-60, à la période des indépendances, on va avoir tout un élan de production de wax dans les pays du continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire,
au Nigeria, ouais, au Burkina Faso, ouais.
au Sénégal également. Et tout cet élan va malheureusement un peu souffrir de la dévaluation du franc CFA dans les années 90, en 1994, et surtout ce qui va un peu apporter le coup de grâce, c'est la fin des quotas sur les exportations textiles. Auquel l'OMC met fin en 2004 et qui va permettre à l'Asie d'inonder
ouais,
le marché.
Qui va permettre à l'Asie de prendre le dessus. Et c'est la fin, par exemple, de la Sotiba sénégalaise, hein, une entreprise qui fabriquait localement du wax. Hein.
Oui, la Sotiba Saint-Pafrique, effectivement, a connu ses heures de gloire. Et c'était un fleuron aussi de l'industrie sénégalaise et productrice de wax. On a la chance, d'ailleurs, dans l'exposition, de pouvoir présenter un rouleau de cuivre très caractéristique.
Très impressionnant.
Voilà, de cette manière industrielle de produire du wax et de présenter aussi le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Lamine Bodge, qui a été l'un des designers textiles de l'usine. Donc voilà, on a vraiment aussi un moment dans l'histoire de la production textile sur le continent africain qui a pris fin effectivement dans les conditions aussi que Cindy a pu, rappeler.
Ouais, on évoquait la concurrence asiatique. Attention aux contrefaçons, le vrai wax est imprimé des deux côtés, sinon clairement c'est un faux, c'est une imitation.
C'est un fancy, on va dire, c'est un autre type de tissu, mais oui, pour les puristes, on a tendance à appeler wax tout tissu qui présente les motifs caractéristiques évocateurs du wax, mais en termes de technique, le wax doit être imprimé des deux faces.
Alors dans votre album, Justine Sou, il y a un des personnages qui dit à un moment donné, quand vous allez visiter l'usine Vlisco aux Pays-Bas, qui dit le wax hollandais doit rester en Hollande. C'est un savoir-faire que protège jalousement cette usine néerlandaise.
Et quand j'ai visité l'usine Vlisco, c'est ce que j'ai ressenti moi. Hein. Donc on était accompagné de certaines personnes qui travaillent là depuis plus de 30 ans et ils sont très fiers et très attachés à ce qu'ils produisent depuis longtemps. C'est vrai que c'est une question que moi j'ai posée en fait au directeur.
D'accord, on n'a que la réponse dans la bande dessinée. Ouais.
Et donc je me suis dit je vais faire ça, je vais faire en sorte qu'un personnage pose cette question parce que je trouvais sa réponse intéressante. Et donc il nous a parlé effectivement de Myriam Makeba qui était venue visiter l'usine dans les années 60 et qui avait fait cette réflexion en disant c'est bien la première fois que je vois des blancs travailler pour les noirs, je trouve ça super.
Bon, voilà. C'est rare de voir des blancs confectionner des des articles, pirouettes, des articles pour des les Noirs. Cette usine Vlisco, elle vend 90% de sa production en Afrique, malgré tout. Donc c'est évidemment son marché principal. La visite dans l'usine, c'est l'occasion évidemment d'expliquer les procédés de fabrication. Mm-hmm. On est dans les secrets de la fabrication du wax, le tissu qui passe entre les deux rouleaux, qui est ensuite plongé dans l'indigo. Ouais. Pour fabriquer un vrai wax, on vous dit qu'il faut 13 mois, ça semble extrêmement long.
Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. Ouais. Et les contrefaçons arrivent assez rapidement, hein, 10 semaines après
deux mois après.
Le marché. Voilà. Ouais. Donc c'est ce qu'ils me disent. Et donc ça allait... ils me donnaient ces informations-là et en même temps j'avais l'impression que ça les dépitait un peu parce qu'ils se demandent comment ils peuvent survivre face à ça, mais aussi survivre à côté de, je ne sais pas moi, H&M, enfin les grandes marques de prêt-à-porter, et ils se demandent si leur avenir n'est pas finalement dans le prêt-à-porter. Mmh. Voilà, donc là, j'ai pas d'expertise à donner là-dessus, mais ils sont...
Mais c'est leur problématique aujourd'hui.
Oui.
Les tissus portent un numéro de série, ça vous... Mmh. Enfin, moi, je l'ai appris en tout cas en lisant cet album-là. Il y a 35 000, on vous dit qu'il y a 35 000 motifs uniques qui sont répertoriés, c'est une vraie bibliothèque textile.
C'est ça, dans les archives, ouais. On a pu avoir accès aussi aux archives. C'est assez impressionnant, je dois dire. Vlisco, aujourd'hui, a racheté, en fait, la majeure partie, si pas 100% des motifs existants, donc ABC, tout ça, enfin voilà, ils ont mis la main sur tout. Et donc, effectivement, leurs archives, maintenant, comportent effectivement tous ces motifs avec les tissus d'origine. C'est très impressionnant de voir ça. On a aussi les bouquins avec les dessins des designers de l'époque. Et puis, alors, il y a un endroit que moi, je n'ai pas vu, mais ils me l'ont décrit. Mais peut-être dans le cadre d'une autre visite, on pourra le voir, je ne sais pas. C'est l'entrepôt où sont entreposés des centaines de rouleaux de cuivre gravés. Et ils sont tous là, ça doit être
juste magnifique. Ce sont les patrons,
magnifique.
En fait, de tous ces motifs qui sont fabriqués chez Vlisco.
Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, j'ai l'impression, dans la confection de wax, mais c'est aussi, avant tout, un travail de gravure. Imaginez un peu la minutie qu'il faut, la technique pour graver comme des motifs si complexes sur des rouleaux de cuivre. Quand on regarde de très très près un wax, on voit vraiment la complexité du motif, du détail. On se rend compte que le trait vient rendre vraiment le motif vivant. Il y a ça donne des impressions de texture, de profondeur, de rythme dans le trait. C'est très impressionnant quand même comme travail qui est fait là.
Alors parmi ces dizaines de milliers de motifs, évidemment tous n'ont pas eu le même succès. On voit dans l'exposition, j'allais dire, les best-sellers, ou en tout cas certains qui sont restés, qui ont traversé les décennies. L'œil de ma rivale, si tu sors, je sors. Si tu me trompes, je te trompe. Hein. Il est beaucoup question sur ces motifs à succès d'infidélité et de fidélité conjugale.
Oui, absolument, pas uniquement, mais c'est vrai
pas
que c'est aussi
il y a des
ceux
motifs
qui sont voilà, extrêmement humoristiques et qui sont à la fois très graphiques, mais aussi effectivement extrêmement humoristiques. Et on parlera aussi, je pense, du rôle que les Nana Benz ont joué.
Bien sûr.
Dans ces noms. Mais c'est vrai qu'en fait, on va présenter à la fois des motifs historiques. Le plus ancien, par exemple, connu, date de 1895, il s'appelle La Main. Donc on voit que dès la fin du 19e siècle, il y a le début justement de la constitution de ce qui est maintenant... un fonds patrimonial, en fait. Mmh. Je veux dire, le wax est aussi présenté dans l'exposition comme un patrimoine iconographique, avec un premier, voilà, des premiers éléments de motifs qui perdurent dans le temps. C'est-à-dire que ce soit effectivement des motifs liés au domaine conjugal, des motifs liés à la faune, à la flore, des éléments plus graphiques aussi, je veux dire, uniquement graphiques, j'ai envie de dire, existent effectivement depuis plus d'un siècle et continuent à être produits, à être réédités aux côtés aussi de collections plus actuelles, plus nouvelles. Donc ça, c'est assez intéressant.
Il y en a un qui s'appelle La Famille, qui date des années 50, Justine Sauve, qui est présent également dans votre album. Vous nous le décrivez ?
Donc il y a je peux le prendre sous les yeux parce que j'aimerais décliner là,
mais
donc
je
m'en souviens quand même parce qu'après l'avoir dessiné et redessiné, parce que ça c'était quand même un enjeu de la bande dessinée, c'était il fallait pas faire des tissus qui ressemblent,
ouais.
Il fallait que ce soit immédiatement identifiable, que le lecteur puisse se dire ok, ça c'est du wax, je le reconnais, je le vois. Mais donc La Famille, c'est donc un wax, il est là, il est lors de la visite en plus de l'usine, hein, qui comporte des poules. Des petits poussins.
Je le vois ici sur la fin.
Voilà.
On a une tête de coq. Une composition effectivement familiale.
Avec des œufs. Et donc, on a cette poule qui est là. Et alors, moi, la description qui est contenue dans la BD, c'est celle qu'on m'a donnée lors de ma visite à Vliskou. Mais je serais curieuse d'entendre votre version des faits, parce que alors, chacun allez-y. Y voit quelque chose. Donc, je vous lis.
Justine.
La poule au centre représente la mère. Donc, c'est vrai qu'on a une grosse poule qui est là, jaune, qui apparaît.
Protectrice.
Avec ses enfants nés ou à naître. Et donc, il y a comme des colliers comme ça de deux qui sont blancs, avec des petits poussins jaunes qui entourent cette poule. Le père est réduit à un rôle de perturbateur. C'est pour ça seule la tête du coq apparaît. Effectivement, sur le côté, on a la tête du coq qui comporte un petit peu plus de couleur rouge et qui est plus grande.
L'interprétation que vous en faites, vous ?
Je pense qu'on a entendu la même histoire, ouais. Aussi, la même interprétation, avec effectivement le fait de souligner la place centrale aussi des femmes dans les foyers, dans la famille, et qui peut-être aussi explique que les numéros d'inventaire qui ont ensuite reçu des appellations liées au domaine conjugal, de jalousie, de famille, il y en a d'autres, effectivement, c'est l'argent s'envole ou les enfants valent mieux que l'argent. Enfin, il y a aussi beaucoup, beaucoup de noms qui ont été donnés qui correspondent à des motifs liés à la famille et la place des femmes dans le foyer qui sont effectivement très, très intéressantes.
Cindy ?
Je pense que ça envoie aussi à une réalité. Et c'est peut-être ce qui a fait la longévité du wax dans l'histoire, c'est que ces motifs, il y a eu à la fois une pérennité des premiers motifs qui ont été créés, mais aussi une adaptation aux réalités rencontrées par les personnes dans lesquelles le wax était exporté. Et il y a quand même cette prégnance de la figure féminine dans le cercle familial. C'est quand même... je vais parler de mon expérience personnelle, mais pour le coup, moi, dans ma famille, du côté du Togo, c'est beaucoup ma grand-mère et mes tantes qui gèrent la maison, qui organisent aussi la répartition des finances pour le foyer, qui gèrent... c'est leur domaine, c'est elles qui décident. Et je pense qu'il y a aussi cet élément-là qui fait que le wax, on en parle un peu à un moment dans l'exposition, est un matrimoine. Les wax ont été transmis de mère en fille, de grand-mère en petite fille. Il y a vraiment cette... présence de et du rôle de la femme qui est très très fort dans l'histoire de ce tissu.
Mama Manuelo.
Togo vio mi chita mia wea, mama Manuelo.
Atogo vio mi chita mia wea, mama Manuelo.
Atogo vio mi chita mia wea, mama Manuelo.
le groupe Nana Benz du Togo. Vous me voyez venir, évidemment, pour évoquer le rôle de ces Nana Benz dans la diffusion du wax en Afrique de l'Ouest. Benz comme Mercedes-Benz, Cindy Olohou. Elles vont faire fortune dans ce commerce. Ce sont des femmes d'affaires togolaises qui vont s'approvisionner sur les marchés à Accra et ramener ces tissus au Togo et en faire un commerce régional extrêmement florissant.
Oui, à l'origine, elles sont plutôt des vendeuses de wax, c'est assez simple. Et le succès du tissu font qu'elles vont aller s'approvisionner à Accra. Et elles vont devenir tellement importantes dans la diffusion du wax dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest qu'elles vont même avoir des partenariats privilégiés et des exclusivités sur certains motifs avec Vlisco. Donc certaines Nana Benz étaient les seules à pouvoir vendre tel ou tel motif. Et elles vont bâtir des empires. Et Benz pour Mercedes-Benz, puisqu'elles vont... acquérir une telle fortune en vendant le wax qu'elles vont être les premières à pouvoir faire
l'acquisition de cette voiture extrêmement solide, extrêmement chère. Il y a des photos d'ailleurs très, très drôles hein, de ces Mama Benz posant devant leur Nana Benz posant devant leur voiture. Ce sont les premières millionnaires africaines quasiment.
Quasiment en tout cas à cette échelle et à cette vitesse et puis des femmes, ce qui n'est pas toujours.
C'est ça, c'est-à-dire qu'elles symbolisent aussi dans ces années 60-70 l'émancipation féminine dans un système très très patriarcal.
Oui, et puis elles vont avoir même cette force économique qu'elles vont avoir et cette influence aussi, puisque le wax va vraiment irriguer la vie quotidienne des gens localement, vont faire qu'elles vont aussi jouer des rôles politiques. Elles vont pouvoir soutenir des équipes de foot, elles vont pouvoir soutenir des présidents, des partis politiques, elles vont vraiment avoir un rôle.
Elles font la pluie et le beau temps en fait. Hein.
Oui.
Donc elles ont une influence sur la diffusion du wax, sur le choix des motifs, vous nous l'avez dit, hein, puisqu'elles elles ont aussi leur mot à dire là-dessus. Sur le fait de nommer les tissus aussi, elles ont... leur importance, c'est Nana Benz.
Oui, mais on parlait des tissus comme la famille, oui. Tous ceux qui abordent aussi la vie conjugale, je sors, tu sors, ton pied, mon pied, mon mari est capable, l'œil de ma rivale, sont des noms donnés par les Nana Benz aux tissus. Ce qui a aussi fait le succès ce qu'on a pu appeler l'âge d'or du wax à cette période-là, c'est que de tissus qui avaient des numéros et qui plaisait esthétiquement, on est arrivé à un tissu qui est devenu vecteur de messages, qui parlait aux gens, qui pouvait leur permettre de s'exprimer à travers ça et qui faisait écho à la réalité de leur vie familiale, conjugale et autres.
Dédé Rose Crépy, c'était la doyenne des Nana Benz, si je ne m'abuse, elle est morte il y a un an ou deux. En 2025, il y a une nouvelle génération de Nana Benz qu'on appelle les nanettes, c'est ça, qui font perdurer cette tradition-là.
Qui reprennent le flambeau, oui, des Nana Benz. Ça reste une figure, même si les dynamiques ont un peu changé, mais les descendantes... Les Nana Benz sont toujours là.
Avec notamment la concurrence chinoise à laquelle il faut faire face. Je vous signale au passage que Valérie Nivelon consacrera à ces Nana Benz un numéro de son émission La Marche du Monde. Ce sera le samedi 1er mars sur RFI, 14h10, temps universel. Justine Sau, ce roman graphique, Wax Paradox, il dévoile un peu de votre parcours à vous. Hein. L'héroïne est métisse, elle vit en Belgique, elle reçoit régulièrement de son père qui vit au Congo des pagnes tissées. Elle n'y prête pas spécialement attention au départ, j'allais dire même presque qu'elle les rejette jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive eh bien d'abord de leur valeur, de leur beauté et puis du fait justement qu'ils véhiculent des messages de ce père qu'elle pensait absent et pas très intéressé par elle.
Mmh. Alors c'est vrai que je ne suis pas totalement le personnage.
Hein. Vous n'êtes pas elle. Donc, vous n'êtes pas elle. Par exemple, elle vous ressemble, oui. Vous ressemblez, mais vous n'êtes pas elle.
Mon papa, il n'est pas issu du Congo.
Il n'est pas congolais.
Il n'est pas parti quand j'étais petite. Mais effectivement, mais ce qu'on a en commun, parce que j'ai puisé dans mon histoire quand même pour nourrir ce récit, c'est la pudeur. Il y a une grande pudeur entre le père et sa fille qui ne se disent pas « je t'aime » et qui usent de moyens un peu détournés pour montrer leur affection. Ouais. Ça, c'est carrément mon père et moi. Donc voilà, je ne peux pas nier que j'ai puisé là-dedans. Mais effectivement, on parlait de matrimoine, enfin de matriarcat, etc. Ici, c'est le père qui donne les wax et je trouvais ça sympa en fait d'utiliser ce moyen-là. Il a peut-être pas beaucoup d'autres moyens pour dire des choses à sa fille et c'est celui
il lui
qui
offre d'ailleurs le fameux wax de la famille dont on parlait.
Celui-là, fleur voilà. De mariage.
Fleur de mariage. Il lui offre le wax de la fin des études avec la symbolique des marches d'escalier parce qu'elle a franchi plein d'étapes différentes.
C'est ça. Enfin, c'est ce qu'il y voit lui. Donc, c'est ce qu'il ça y qui voit. Est chouette évidemment. Ouais. Chacun va investir le récit et comme il veut et en fait chacun investit le wax, comme il l'entend, et il voit des choses. Mm-hmm. Donc ouvrir son cœur, je trouvais ça sympa aussi, qu'il puisse... on comprend que la parole n'est pas vraiment facile entre eux et qu'il encourage sa fille à se confier ce qu'elle ne fait pas. Et donc, ça donne lieu peut-être à des malentendus. Et donc, effectivement, elle est contrainte à un moment donné d'explorer ce tissu dans le cadre de ses études. Et cette exploration du tissu va se muer petit à petit en exploration d'elle-même, de sa famille. Et ça va l'aider à mener une quête identitaire qui était, on le comprend au début de la BD, un peu rendue complexe par le fait d'être effectivement une personne métissée qui est née en Occident, qui grandit en Occident, qui évolue dans un milieu majoritairement occidental et qui, je serais curieuse d'ailleurs de voir comment les personnes afrodescendantes vont se saisir de ce récit et s'ils seront attentifs à des planches qui ne parlent pas du tout de wax, mais qui apparaissent au début. Ce sont quelques cases où on voit un caméléon. Alors, c'est ce que moi, j'appelle le syndrome du caméléon.
S'adapter elle regarde, à tout instant.
Voilà, elle regarde une affiche.
À l'environnement.
Ouais, c'est ça. Et elle voit un caméléon. Son regard est attiré par ça.
Parce que dans sa peau de métisse.
L'art du camouflage.
Parce que dans sa peau de métisse à Bruxelles, c'est pas simple, forcément, tous les jours.
En tout cas, elle, on le comprend dans ce qu'elle dit, parce qu'on a accès un peu à ses pensées intérieures. Elle pense que se fondre dans la masse, qu'essayer de correspondre à ce qu'on attend d'elle, de passer inaperçu. C'est ce qui est le plus confortable finalement, mais c'est pas ça être soi, et donc c'est compliqué, mais c'est un chemin riche.
Et dans cette quête d'identité, elle fait la rencontre d'autres jeunes adultes comme elle, pour qui le wax est très étroitement associé à la colonisation. Il y a un personnage qui dit ça n'a rien d'africain, le wax, c'est la mainmise de l'Occident sur l'Afrique, il fait trop d'ombre au tissu africain.
Oui, c'est ça, donc c'est le personnage d'Aliou. J'ai cherché en fait à incarner les problématiques dans des personnages sensibles et la question de l'appropriation culturelle qui prend beaucoup de place quand on parle du wax, et c'est parfois dommage parce qu'on n'a pas l'occasion alors de parler de toute cette autre chose, cette grande richesse culturelle qui concerne ce tissu. Et donc je me suis dit comment je vais faire pour incarner, déjà pour apporter quelque chose de pertinent à ce sujet à propos duquel j'ai l'impression que tout a été dit. Et donc le personnage d'Aliou m'a semblé pertinent pour ça. Donc effectivement, c'est celui qui se dit « no wax ». C'est quelque chose que j'ai découvert dans les livres. Moi, je ne savais pas qu'il existait ce mouvement-là. Et donc qui préfère mettre en avant les tissus traditionnels en considérant que le wax est beaucoup trop d'ombre aux tissus traditionnels africains.
Il faut dire justement, Marie Merlin, que dans l'exposition, il y a une place qui est faite à l'évocation de ces tissus avec une carte qui leur est réservée, le Bogolan du Mali, le Kente pour ne citer qu'eux, ils sont bien présents dans l'exposition aux côtés du wax.
Oui, cette question elle est présente de deux manières. L'exposition est en deux volets. Donc sur l'aspect davantage identité, patrimoine iconographique, etc. C'est vrai que les commissaires scientifiques ont tenu à ce que soit présentée une sorte de cartographie textile du continent africain. Donc on n'a pas non plus pu présenter l'ensemble de toute la diversité de ces textiles natifs du continent, mais ça semblait important aussi de
qu'ils soient là,
enfin, absolument,
que le wax ne les efface
pouvoir,
pas.
Exactement. Ouais. Donc ça, le visiteur, ça lui donne aussi, enfin pour ceux qui connaissent le wax. Et pour ceux qui ne connaissent pas, parce que l'exposition s'adresse aussi à une grande diversité de publics, donc il y a aussi ce point d'ancrage aussi qui est mis en regard de l'ascendance indonésienne du wax. Et cette question de l'appropriation, la réappropriation culturelle, elle est davantage traitée dans le volet de l'exposition qui est au foyer
avec les artistes.
Exactement.
Et oui, on va en parler tout à l'heure. Juste une chose, on disait tout à l'heure, le wax accompagne chaque événement de la vie, les naissances, les mariages, les deuils. Il fait partie de la dot, il y a une transmission de mère en fille, etc. Il accompagne aussi la vie politique, et il y en a quelques exemples aussi dans l'exposition, les campagnes électorales, les investitures de présidents, les visites officielles. On a par exemple ce tissu qui remonte aux années 70, hein, la visite de Valéry Giscard d'Estaing à Omar Bongo à Libreville, et donc un wax avec les visages extrêmement sérieux des présidents français et gabonais. C'est collector, hein, franchement, ça fait plaisir de voir ça, c'est historique. Mais il y en a des milliers d'autres exemples ailleurs sur le continent, évidemment.
Oui, là on a essayé de donner un aperçu justement de la diversité aussi des sphères dans lesquelles le wax s'investissait, donc la sphère symbolique, les funérailles aussi, et évidemment la sphère politique, et également le domaine féminin, avec tous ces pagnes aussi qui sont édités au moment des Journées internationales du droit des femmes. Donc voilà, on a comme ça, on présente aux visiteurs cette diversité, et certains sont effectivement collecteurs.
Oui, ça vaut des archives historiques, hein. Les wax sont aussi des livres d'histoire.
Et puis c'est un merveilleux moyen de communiquer. Quel meilleur support que de se balader partout en ville. Enfin, c'est beaucoup moins cher qu'un panneau publicitaire. C'est beaucoup plus efficace. Et on peut avoir des portraits, des messages. Enfin, il y en a aussi des très très beaux avec le portrait de Jean-Paul II.
Beaucoup, absolument.
Beaucoup de succès.
La visite de Jean-Paul II à Brazzaville même.
Très très beaucoup de succès sur le portrait de Jean-Paul II. Et c'est vraiment comment aussi le vêtement est un outil social et politique dans qui s'inscrit dans une globalité.
Le Congolais Franco et son tout-puissant OK Jazz avec la chanteuse Jolie d'État et ce titre Massou. On est toujours avec Marie Merlin, Cindy Olohou et Justine So pour évoquer l'expo Wax au Musée de l'Homme. Mais d'abord, on passe par Nairobi sur le Pont des Arts. Nairobi, où on rejoint Ali Bilali. Salut Ali.
Salut Nathalie. Oh oh.
Siwezi sema kitandani labda umasikini wangu ndo kilo nishusha thamani wathamini keweza. Siwezi sema skujeni labda visawati vyangu mimi havikufikia ukubwa na vitoa weza. Kinachoniumiza ridhiki ugawa Mola, ingalikuwa mimi mbona ngeo Mola.
Alors Ali, cette semaine, il n'y a pas un, mais plusieurs hits au programme avec toi.
Oui, je vous fais le tour de l'actualité musicale de pays de l'Afrique de l'Est. Je vous amène d'abord à Dar es Salaam en Tanzanie, qui est considérée comme la capitale de la musique est-africaine. Est-ce que vous savez pourquoi, Nathalie ?
Ben non, mais vous allez nous le dire, Ali.
Eh bien, c'est parce que pour qu'un artiste kenyan, burundais, rwandais ou même ougandais soit connu dans la région, il doit d'abord se faire connaître en Tanzanie en faisant le featuring avec un artiste déjà connu en Tanzanie. C'est le cas, par exemple, de l'artiste rwandais The Ben et même du kenyan Otil Brown.
Alors, quel est le titre de la chanson que nous écoutons, Ali ?
Le titre, c'est Nitafanyaje, qui signifie « Que dois-je faire ?». C'est le nouveau opus de l'artiste tanzanien Diamond Platnumz, sorti il y a 3 jours. C'est des rythmes purement tanzaniens, Ntiriku et Singeli.
Voilà pour la Tanzanie. Ali, où nous emmènes-tu ensuite ?
Oui, après la Tanzanie, on traverse un peu la frontière vers le Burundi. Il y a un artiste qui émerge ces derniers temps. Il s'appelle Mr. Champagne. Et d'ailleurs, il est de retour à Bujumbura après le tournage de sa nouvelle chanson « Moto » en collaboration avec l'artiste congolais de grand renommée, Héritier Ouattara. La chanson n'est pas encore sortie. Ici, je vous propose d'écouter sa chanson « Nikotu » qui veut dire « Je suis là ». Mr. Champagne nous parle ici des gens qui pensent qu'il est sans aide, il ne peut rien faire, ou il explique qu'il est toujours là.
Nikotu, je suis là. Merci Ali de nous avoir fait découvrir Mr. Champagne. Après le Burundi, on part pour le Rwanda.
Oui, l'actualité musicale est marquée par l'annulation du concert de l'artiste nigérien Tem, qui a reçu avant-hier le Grammy Award de la meilleure performance musicale africaine. Annulation pour des raisons humanitaires selon ces termes, mais les artistes rwandais s'organisent pour combler le vide. Et parmi eux, il y a Rose Kana qui nous chante ici « Mami ».
Alors on va écouter ça tout de suite. De quoi nous parle la chanson, Ali ?
Oui, c'est une chanson d'amour. L'artiste essaie de bercer sa copine avec des jolis mots.
C'est bien tenté. On écoute.
En tout cas.
6 o'clock in the morning. She goes back to shower. She tell me say she want nobody else. My capability sour. Yo, yo, yo. She my woman, woman. Nuko wenshi wa mukunda. Acha wa honga.
Ami par le Rwandais Rose Kana. Et puis Ali, on ne va pas se quitter sans passer évidemment par le Kenya.
On va aller précisément à Nairobi où je vous propose la chanson « Pa » de l'artiste Bahati. Il est en collaboration avec Willy Paul. Ces deux artistes ont débuté leur carrière dans la musique gospel avant d'abandonner et entamer la musique profane.
Maji waini kunyunyuzie au navyo nishika hapa rudia hapa ongeza hapa mtamu baby o
Bati et Willy Paul, l'actualité musicale vue de Nairobi. C'était Ali Bilali de la rédaction Kiswahili d'RFI. Merci Ali.
Merci également Nathalie.
Et à très bientôt. Merci à Vital Mugisho qui assurait la liaison avec Nairobi. À très vite. Sur le Pont des Arts, on parle aujourd'hui de l'expo Wax qui ouvre ses portes au public ce mercredi à Paris, au Musée de l'Homme. Alors il y a ce dont on parlait tout à l'heure au balcon des sciences, l'histoire du Wax. Et à l'étage en dessous, dans le foyer Germaine Tillon, cette expo nous montre, Marie Merlin, comment les artistes se sont appropriés le Wax. Alors il y a déjà les photographes qui, sans se l'approprier, ont tout simplement témoigné de son omniprésence. Il y a des photos de Malik Sidibé ou de Seydou Keïta, le wax y est absolument partout.
Oui, on a trouvé que c'était vraiment intéressant et pertinent de montrer aussi la résonance du wax dans le champ de la création artistique et donc de présenter aussi des regards pluriels sur le wax. On parlait tout à l'heure d'appropriation culturelle ou de réappropriation. On sait effectivement que certains artistes ou stylistes rejettent le port ou l'usage du wax du fait qu'il a été imposé par la colonisation. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que il y a aussi des artistes qui, du fait qu'ils soient de toute façon identifiés à l'Afrique, s'en servent aussi comme un emblème, jouent en fait aussi peut-être d'une certaine manière sur ces stéréotypes pour en faire un emblème permettant à la fois de questionner leur identité plurielle, d'afro-descendants par exemple, pour ce qui concerne Gombo, ou d'identité par rapport à la condition féminine dans une Afrique de l'Est contemporaine. C'est le cas de la photographe kényane Tandiwe Muriu.
Alors c'est elle qui donne à l'expo son affiche, hein, oui. Avec une magnifique photo. Elle reprend le motif wax, l'œil de Marival, et elle le sublime littéralement. C'est compliqué. Est-ce qu'on pourrait le décrire pour nos auditeurs, ceux qui n'ont pas sous les yeux ce cliché?
Il est particulièrement vibrant. C'est un print jaune, ouais. Un fond jaune, et qui dessine comme une sorte de série d'œils, en fait d'œils qui se répètent sur des lignes. Mais chacun de ses yeux étant l'un de couleur bleue, l'autre de couleur rouge. Donc ça crée effectivement aussi une texture très, très vibrante. Donc qui est aussi... Tandiwe, elle travaille aussi avec toutes ces textures, tous ces motifs. Et nous, on a aussi choisi pour l'exposition cette photographie-là parce qu'elle était justement en résonance avec ce qu'on peut proposer aux visiteurs au Balcon des Sciences.
Et elle est absolument magnifique, lumineuse. Il y a aussi cette toile Bouleversement du Monde du Congolais Monsengo Chula avec des astronautes noirs en apesanteur, Cindy Olohou, dans des combinaisons spatiales en wax. Alors je ne sais pas si ça serait autorisé par la NASA ou par l'Agence spatiale européenne, mais en tout cas c'est une image très forte.
Oui, c'est une et le titre aussi est très très fort, Bouleversement du Monde. Monsengo Chula est un peintre congolais de RDC, Congo-Kinshasa, et c'est une toile qui évoque, je pense, qui pour moi synthétise bien cette complexité de l'histoire du wax, qui est omniprésent dans la vie quotidienne, comme on le voit dans les photos de Seydou Keïta et Malik Sidibé, mais qui a aussi cette histoire coloniale, et les deux dialoguent. Coexistent, vivent ensemble, et il y a toujours cette espèce d'ambivalence, d'ambiguïté, où le wax fait tellement partie du quotidien qu'il est devenu un emblème associé à l'Afrique, malgré son origine extérieure. Et en même temps, il y a ce besoin de garder les traces de ce qui est natif du continent africain, des traditions, d'où la présence de cette sculpture traditionnelle du Congo, qui est vraiment au centre des cosmonautes et qui les comme des, oui, cordons, les relie un peu au passé. Et il y a tout ce lien. Enfin, je trouve que c'est une belle toile sur
Qu'est-ce
le lien
nous
entre
dit,
passé
cette toile,
et
parce
futur.
Qu'elle nous dit quand même la volonté de cette génération de renverser l'ordre issu de la colonisation, ou c'est plus compliqué que ça pour vous? Comment vous l'interprétez?
Je ne sais pas si renverser est le bon mot. Je pense, enfin, c'était mon avis personnel, pour le coup. Je sais peut-être que Monsengo Chula a un autre avis sur le sujet.
Il n'est pas là, alors.
Mais je pense qu'il y a vraiment cet enjeu de ne pas oublier d'où l'on vient, de continuer de faire vivre ce qui est natif, ces traditions, ces cultures, ces textiles dont on a parlé, qui sont nés sur le continent africain, et en même temps aussi de la réalité des choses. Le wax fait tellement partie de la vie quotidienne qu'on peut dire que c'est un tissu colonial, on peut rappeler cette histoire, et c'est essentiel de le faire. ça fait partie de la vie des gens. Donc la question n'est plus tant de renverser quelque chose que de prendre ce qui est là et de l'utiliser,
de l'évoluer,
d'en faire quelque chose pour aborder les problématiques auxquelles ils font face aujourd'hui, d'écologie, d'environnement, d'émancipation de la femme, mais aussi de projection sur le futur de l'Afrique.
Est-ce qu'on peut dire un petit mot, il ne nous reste pas très longtemps, du travail d'une autre artiste, Chrissy Mapoba, Marie Merlin ou Cindy Olohou?
Chrissy Mapoba, c'est une jeune artiste qui vit en Seine-Saint-Denis et qui a tout un travail sur le wax, justement. On parlait tout à l'heure de matrimoine qu'on a choisi aussi pour incarner, de par ses photographies, ce lien, cette transmission aussi entre les générations que permet aussi le tissu. Donc on va présenter par exemple une de ses photographies qui s'appelle Le mariage, où on la voit avec sa grand-mère. Toutes les deux portent le même, le même motif, mais chacune dans une couleur différente. Et en fait, c'est vraiment à l'image aussi des moments de mariage ou de fiançailles où il y a ce vêtement uniforme, où les coupes sont différentes, c'est-à-dire que les plus jeunes ne vont pas forcément avoir une coupe de leur vêtement identique à celle des anciens. Mais voilà, donc par exemple...
Elles sont unies par la permanence de ce tissu.
Le motif étant une bague, donc aussi, on revient toujours aussi au tissu messager porteur de sens.
Cindy. Et juste pour ajouter, parce que ça fait aussi le lien avec le roman graphique de Justine, c'est que Chrissima incarne aussi l'importance de la diaspora et des afro-descendants dans cette valorisation, visibilisation et importance jouée par le wax. Parce qu'on parle beaucoup d'un tissu associé à l'Afrique, mais la diaspora utilise aussi beaucoup le wax pour se reconnecter ou pour garder un lien avec les personnes qui ne sont plus sur le continent, des liens familiaux, des liens historiques et culturels.
Vous confirmez, Justine ?
Oui, mais c'est vrai que c'est encore une question, même par exemple pour moi qui n'en porte pas. Où est-ce que je me situe là-dedans ? Est-ce que je vais en porter ? J'ai souvent eu envie, quand j'ai fait cette bande dessinée, d'entamer une collection, par exemple. Est-ce que je
vais
le faire ?
Ça donne très, très envie. Ouais.
J'ai du lépi chez moi. Mon père, il m'en a offert. Donc, j'ai des tissus traditionnels. Ma grand-mère m'a offert un wax quand j'étais... Enfin, il y a 25 ans.
Ouais. Le début de la collection est là.
Dessus, donc, mais ouais. c'est en questionnement.
Il va falloir se décider. On restera sur cette question. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission, d'être venues dans les studios de RFI. Marie Merlin, commissaire une des commissaires de cette exposition Wax au Musée de l'Homme. Ça va durer tout l'été, hein, jusqu'au 7 septembre prochain.
C'est ça.
Même Cindy Olohou, commissaire scientifique. Et merci à vous, Justine. Cet album Wax Paradox est paru chez Bayard Graphique. Sur le Pont des Arts avec Pierre Plantier à la réalisation, Damien Roucou pour la programmation, merci à eux. Demain, on aura le plaisir de recevoir Joseph Chédid à l'occasion de la sortie de son troisième album Hey Friend sur le label Maison Rock. Et d'ici là, vous restez à l'écoute. Dans une minute, le journal en français facile et Radio Foot International avec Annie Gasnier. À demain.
Votre rendez-vous culturel sur le Pont des Arts, à retrouver du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI et en podcast sur l'application Pure Radio.